Je vais maintenant poursuivre avec vous ce matin la série de prédications suivies de la lettre aux Éphésiens. Et nous lirons ce matin la totalité du deuxième chapitre. Et il me semble que le but que Dieu poursuit dans ce passage, c'est d'exhorter son Église, c'est-à-dire ceux qui en font partie, à aller de l'avant tous ensemble dans l'unité et la paix. D'où le titre de ma prédication, « Puisque Jésus nous a réunis, avançons ensemble et unis ». Ce que j'aimerais, c'est que suite à cette prédication, vous soyez encouragés dans votre vie d'Église, encouragés à vivre ensemble et encouragés à avancer ensemble. Juste avant de lire le passage, nous voyons que, dans la partie qui précède, Paul, l'auteur de la lettre, a parlé de Jésus. Il a parlé de sa puissance, de sa domination, de son autorité et du fait que Jésus est le chef de son Église. Et il s'adresse maintenant à ceux qui composent cette Église, à ceux qui appartiennent à Jésus, à ceux dont Jésus est le Seigneur. Donc, Éphésiens, chapitre 2. Si jamais vous voulez le suivre dans une Bible, ce que je vous conseille fortement, vous pouvez en emprunter, ce sera même à la page 767. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Les destinataires de cette lettre forment une église, c'est-à-dire une réunion, une assemblée d'hommes et de femmes qui partagent la même foi en Jésus. Ils adorent le même Sauveur, ils suivent le même Seigneur, et cela signifie qu'aux yeux de Dieu, ils ne forment qu'un seul peuple, qu'une seule famille, et tous sont enfants de Dieu. Mais aux yeux de ces chrétiens de la région d'Éphèse, les choses ne sont pas ainsi. Ils ne considèrent pas que tous ont le même statut aux yeux de Dieu. Il y en a que Dieu accueillerait plutôt même les bras ouverts, parce qu'ils auraient depuis toujours été proches de Dieu. Ce sont les chrétiens d'origine juive. Et puis, il y a ceux que Dieu accueillerait, bien sûr, mais à peine. Ceux qui viennent de loin, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'origine juive. Selon le verset 17, aux yeux de ces chrétiens, il y a ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près de Dieu. Alors, en elle-même, cette distinction est déjà contestable. Parce que dans sa parole, Dieu nous dit que tous, sans distinction, nous étions ses ennemis et loin de lui. Mais ce qui pose véritablement problème avec cette distinction, c'est qu'elle se poursuit au sein de l'Église et qu'elle divise le peuple de Dieu en deux catégories. C'est un peu comme s'il y avait des chrétiens de première classe, voilà, mais aussi des chrétiens de seconde classe. Et cette distinction affaiblit l'Église, mais elle fait aussi des dégâts dans les cœurs et les relations fraternelles. Il y en a qui se sentent dévalorisés par rapport aux autres, dévalorisés par rapport aux yeux de Dieu, et puis d'autres au contraire sont là et remplis d'orgueil. Ils se sentent au-dessus des autres, alors pas forcément au-dessus de tous les autres, mais en tout cas au-dessus de certains de leurs frères et sœurs. C'est une église où il y a du mépris, certains se méprisent eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se dire qu'ils ont suffisamment de valeur pour pouvoir se présenter devant Dieu. Certains méprisent ceux qu'ils considèrent comme inférieurs à eux-mêmes. Et puis, il y en a aussi qui méprisent ces arrogants qui s'imaginent être au-dessus des autres. Et on voit cela à la manière dont Paul va s'adresser aux uns et aux autres. À ceux qui se sentent inférieurs, à ceux qui ont l'impression que leur place n'est pas vraiment dans l'Église, Paul dit au verset 1, « Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Mais verset 13, « Mais maintenant, » il disait tout à l'heure qu'il y avait un autrefois et un maintenant, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » Et encore verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Voilà, c'est vrai que autrefois vous étiez loin de Dieu, mais maintenant, grâce au sacrifice de Jésus, vous êtes proches. Vous êtes intimement liés à Dieu, vous êtes aimés de Dieu, vous êtes sauvés et vous faites intégralement partie de la famille de Dieu. À ceux qui, en revanche, s'imaginent mériter plus que les autres leur place auprès de Dieu, Paul leur demande de se rappeler qu'eux aussi étaient pécheurs et séparés de Dieu. Verset 3. Nous tous, et Paul se met dans ce lot-là parce que lui-même, de par son profil, correspond exactement à ceux qu'on imagine être plus proches de Dieu. Nous tous, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Et afin de balayer les illusions de ceux qui imaginent avoir mérité leur place auprès de Dieu, il rajoute versets 8 et 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. » C'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter, qu'il n'y ait personne dans cette Église qui s'imagine pouvoir se vanter d'avoir mérité sa place auprès de Dieu. Et à tous, il rappelle le plan de Dieu. Dieu ne veut pas simplement sauver des individus, mais Dieu veut se constituer un peuple, un seul peuple uni en Christ, parce que c'est par lui que chacun a connu la paix avec Dieu. Verset 14, « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » Versets 16 et 17, « Il a voulu les réconcilier l'un avec l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. » À partir d'hommes et de femmes d'origine très diverses, Dieu poursuit un plan extraordinaire, verset 15, « Crée en Christ un seul homme nouveau, établissant ainsi la paix. » Il n'y a plus plusieurs catégories d'individus, mais une seule. Et qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle catégorie d'êtres humains? C'est que tous, par leur foi en Jésus et par l'Esprit de Dieu qui vit en eux, tous, sans distinction, ont la même proximité, intimité avec Dieu. Verset 18, « À travers lui, en effet, nous avons, les uns et les autres, accès auprès du Père par le même Esprit. » Ce texte attire notre attention sur ce qu'est la véritable foi en Jésus. La foi en Jésus est une foi personnelle. Ça, c'est quelque chose qu'on intègre bien. Mais cette foi personnelle se vit en relation avec Dieu, mais aussi en relation avec les autres. Alors, dans le texte que nous avons lu, la mauvaise relation entre les divers membres de l'église d'Éphèse provenait d'une distinction faite entre les chrétiens d'origine juive et les autres. Alors ce type de situation ne se produit plus de nos jours. Mais en revanche, notre diversité actuelle peut nous amener à faire bien d'autres distinctions. Des distinctions qui peuvent amener certains à se dévaloriser eux-mêmes ou à se sentir dévalorisés par les autres. Et des distinctions qui peuvent amener certains à se considérer comme étant au-dessus des autres. Ces distinctions peuvent être, par exemple, entre chrétiens de longue date et jeunes convertis. Entre chrétiens issus d'une famille chrétienne, d'une longue lignée de chrétiens, des gens qui ont été enseignés de leur jeune âge, par rapport à ceux qui, eux, sont issus de familles non chrétiennes qui n'ont pas tout ce vécu. Des origines basées sur, enfin des distinctions d'origine en fonction du pays, de la culture, du passé. Ouais, mais toi, ton passé est comme ça. Le mien, c'est autre chose. Des distinctions en raison de notre appartenance sociale. Des distinctions entre hommes et femmes. Et puis, il est très redoutable, distinction. Moi, j'ai compris. Toi, tu n'as rien compris. Ou bien, moi, j'ai raison. Toi, tu as tort. Quand on se dit que nous, on a raison, on a tendance à considérer que l'autre, eh bien, soit il est bête, soit il est loin de Dieu. La preuve, c'est qu'il n'a rien compris. Ces différences que nous percevons sont autant de pièges dans lesquels Satan aimerait nous faire tomber afin de nous diviser et de nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu pour nous. Mais si jamais nous faisons ce que Paul a fait, si nous prenons la peine de réfléchir et de nous rappeler que tous nous étions loin de Dieu, parce que tous nous étions pécheurs, si nous nous souvenons que de par sa mort, Jésus accorde la même valeur, la même dignité à chacun. C'est quoi la valeur de chacun? De chaque personne qui aime le Seigneur. Ce qui définit sa valeur, c'est le prix qui a été payé pour elle, à savoir la mort de Jésus. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu, une valeur inestimable. Si nous sommes conscients de cela, nous pourrons bien plus facilement rentrer dans le plan de Dieu pour nous. Et ce plan commence par travailler à la paix et à l'unité au sein de l'Église. Alors, non seulement parce que cela est juste, mais aussi parce que cela correspond au plan de Dieu pour nous. Dieu a sauvé des pécheurs, 100% des pécheurs de toute origine. Pourquoi faire ? Pour se constituer un seul peuple. Et de chaque membre de ce peuple, il a fait son enfant. Et à partir de ce groupe de pécheurs repentis, Dieu fait des hommes et des femmes nouveaux, unis les uns aux autres et unis par Christ, en Christ. Et si jamais nous, par notre orgueil, par notre incompréhension des choses, nous faisons des distinctions de personnes au sein du peuple de Dieu, bien ça signifie que nous nous mettons nous-mêmes en dehors du plan de Dieu, voire même en dehors de Christ, parce que nous nous opposons au Saint-Esprit. Parce que la volonté première de Dieu n'est pas de sauver des individus. Nous, on est dans une conception des choses très individualiste, mais la volonté première de Dieu n'est pas de sauver des individus isolés les uns des autres, mais la volonté première de Dieu est de se constituer un peuple uni, animé par le même esprit et qui témoigne de la grâce de Dieu. C'est même comme cela que Dieu compte montrer au monde et aux puissances invisibles sa puissance. Verset 7, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Mais chercher, cultiver l'unité et la paix entre frères et sœurs est quelque chose d'exigeant et même parfois de pénible. Parce que nous sommes différents les uns des autres, et puis comme nous l'avons déjà entendu tout à l'heure, parce que nous sommes tous imparfaits. Voilà, Michel, il n'y a pas que toi qui sois imparfait. Tous ici, nous sommes imparfaits. Et ça veut dire que forcément, nous allons rencontrer des difficultés les uns avec les autres. Parce que notre peur a tendance déjà à nous faire douter que Dieu nous aime autant que telle ou telle personne. Et aussi parce que notre orgueil a tendance à nous faire croire que pour certaines choses, nous valons mieux que les autres. Nous arrive-t-il parfois de penser que nous valons mieux que tel frère ou telle sœur pour certaines choses ? Moi, ça, je l'ai bien compris, mais l'autre, elle n'a rien compris. Quelque part, dans ces cas-là, on se dit, mais voilà, je te suis supérieur. Je suis plus proche de Dieu que toi. Et ça, c'est pas simplement par les mots, peut-être qu'on n'irait pas jusqu'à là, mais par notre attitude. Parce que parfois, on n'a pas une attitude un peu de mépris les uns envers les autres. Si jamais c'est le cas, nous faisons vraiment fausse route et nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon à Dieu pour notre orgueil et aussi pour le fait d'avoir semé un coin, divisé son Église. Et puis, si nous avons blessé un frère ou une sœur, nous devons lui demander pardon. La volonté de Dieu est de se constituer un seul peuple, uni, en paix et animé par le même esprit, où chacun est conscient de la grâce de Dieu, la grâce que Dieu a accordée à chacun. Au sein du peuple de Dieu, il y a une grande diversité, mais il n'y a pas de différence de valeur, pas de différence d'importance. Au sein du peuple de Dieu, il y a une grande diversité, si jamais nous sommes capables de vivre cette diversité dans la paix, dans l'humour, dans l'amour et la joie, dans l'unité, si nous sommes capables de laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous, alors cette diversité va être une richesse. Et Dieu va pouvoir accomplir de grandes choses par notre intermédiaire. Et tout d'abord, Dieu souhaite que nous accomplissions de belles et bonnes choses pour lui. Et pas seulement que nous fassions cela en tant qu'individus, mais que nous le fassions ensemble, en tant que communauté, en tant qu'Église. Parce que Dieu, rappelons-nous, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a réunis, C'est Dieu qui nous a mis ensemble. Il a mis ensemble nos différences, nos dons, nos expériences, nos disponibilités, nos forces, nos personnalités, afin que nous puissions réaliser ensemble et pour lui ses projets. Verset 10, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors, lorsque nous lisons ce passage, nous le recevons, en tout cas moi, j'ai tendance à le recevoir comme si Dieu s'adressait à moi tout seul. Mais nous oublions que dans ce passage, Dieu ne s'adresse pas à un individu isolé, il s'adresse en premier lieu à une église, à une communauté. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Je vous ai mis ensemble, j'ai fait de vous une église afin que vous accomplissiez ensemble les missions que j'ai préparées spécialement pour vous. Ensemble, grâce à nos différences, grâce à notre nombre, nous pouvons faire bien plus de choses pour Dieu que si jamais nous étions seuls ou désunis. Et des fois, là, on se trompe aussi. Hein. Des fois, on peut avoir un bon projet. Le projet est vraiment bien. Ça vient de Dieu. Mais on n'est pas unis aux autres. Ou alors, on ne réussit pas à partager ça aux autres et ça ne devient pas un projet d'église. Et c'est très différent lorsque des individus isolés font quelque chose chacun de leur côté que lorsque ça devient un projet commun, un projet d'église. Prenons par exemple le parcours Alpha. Parce que nous sommes unis, le Seigneur a pu nous conduire de telle manière que ce parcours soit le fruit d'une décision collective. C'est une belle chose, ça. Une décision collective, une décision d'église. Ça fait que ça devient un projet cohérent. C'est un projet qui est porté par tous, où chacun est là, au service des autres. C'est pas « j'ai mon projet, les autres vont me servir dans ce projet-là, et j'ai même me servir des autres pour que mon projet aboutisse », c'est « nous avançons ensemble pour le même projet ». Pas notre projet, le projet de Dieu. Le projet que Dieu a mis dans le cœur de son Église. Ça nous permet ainsi de nous compléter et de nous soutenir mutuellement. Et parce qu'au sein de cette unité, il y a une vraie diversité. Et heureusement qu'il y a cette diversité, bien ça fait que nous sommes en mesure d'accueillir et de prendre soin de nos invités sur tous les plans. Sur le plan relationnel, ils se sentent accueillis, aimés. Sur le plan matériel, pratique, ils sont aux petits soins. Ils mangent bien, il y a du chauffage, ils sont servis. On ne leur demande pas de faire le ménage. Et puis aussi, accueillis sur le plan spirituel, ils sont entendus, on leur apporte des choses. Eh bien, un tel projet n'est possible que parce que nous sommes unis et que le même esprit nous anime. Si jamais il y a des unions, si jamais nous fragmentons ou nous attristons l'esprit de Dieu, ce projet va capoter. Et ça, c'est la grande crainte et c'est à ça que nous devons veiller particulièrement en ce moment. Mais si nous sommes unis, alors nous serons animés par le même amour, le même esprit, l'esprit de Christ. Si jamais nous voulons que les projets du Seigneur, pas nos projets, mais que les projets du Seigneur, les projets que Dieu a préparés d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions, si nous voulons que ces projets-là se réalisent, nous devons veiller à notre unité. Bien des projets ne voient pas le jour ou bien échouent, non pas parce que ces projets étaient mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas été précédés par la recherche de la paix et de l'unité avec les frères et sœurs de l'Église. Si nous voulons que la volonté de Dieu se réalise, notre unité en Christ doit précéder nos projets pour Christ. Une autre raison pour laquelle nous devons veiller à notre unité et à la paix, c'est que c'est par ce moyen-là que Dieu veut nous faire grandir. Verset 21-22, c'est en lui, en Christ, que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. En nous réunissant, malgré nos différences, Dieu sait ce qu'il fait. Et nous ne formons pas un ensemble mal ajusté, mais au contraire, un ensemble bien coordonné. Et c'est au contact des uns et des autres, c'est grâce à cela que le Seigneur veut nous faire ressembler de plus en plus à Jésus. Alors, des fois, nous pensons que les autres nous empêchent de grandir parce que nous trouvons qu'ils rendent notre vie chrétienne difficile. Oh, ce serait tellement plus simple d'aller de l'avant avec le Seigneur si un tel n'avait pas fait ceci ou ne m'avait pas dit cela. On croit ça, mais en réalité, c'est l'inverse. Par les difficultés que nous rencontrons avec les autres, le Seigneur est en train d'éprouver notre foi. Notre amour, notre patience, notre maîtrise de nos réactions, notre pardon, notre grâce. Et si malgré ces difficultés réelles que nous rencontrons, il ne faut pas se leurrer, on en a. Mais si nous travaillons à la paix et à l'unité, eh bien alors nous allons grandir. Le fruit de l'esprit va se développer en nous. Les autres nous permettent également, et heureusement qu'ils sont là, de mettre nos dons à leur disposition, à leur service. C'est comme ça que nos dons se développent. Et puis en retour, nous bénéficions des dons que le Seigneur a accordés à nos frères et sœurs. Des dons par lesquels nous allons être édifiés, nous allons être repris, soutenus, peut-être corrigés, encouragés. Et tous ensemble, dans ce mélange très divers, mais uni, eh bien, lorsque ces différences sont mises en commun, eh bien, cela permet à notre diversité de se compléter et de former un corps, une armée. Ce qui caractérise une armée, ce n'est pas simplement le nombre, c'est l'unité. C'est la capacité à faire des choses ensemble, à serrer les coudes lorsque les choses ne vont pas, pour aller de l'avant. Eh bien, le Seigneur, pour nous, a un grand projet. C'est pour ça qu'il nous a mis ensemble, mais pour que ce projet puisse voir le jour, nous devons veiller à notre unité et à la paix. Avançons ensemble et unis, puisque c'est Jésus lui-même qui nous a réunis. N'oublions pas aussi que c'est grâce à ça, par cet intermédiaire-là, que Dieu veut se glorifier. Qu'est-ce qui touche des fois les gens de l'extérieur? C'est comment des gens si différents peuvent vivre ensemble. C'est grâce également à notre unité, à notre complémentarité, que nous pourrons accomplir les grands et merveilleux projets que Dieu a préparés pour nous. Et c'est également grâce aux autres que nous pourrons mutuellement nous aider à grandir. Et ainsi, de plus en plus, ressembler à Christ. Prions. Seigneur, nous voulons nous rappeler que c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as rachetés, c'est toi qui es notre chef, c'est toi qui nous as réunis. Et nous savons que tu es sage et que tu connais toutes choses. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la diversité que nous représentons. Et merci parce que lorsque toi, tu es au milieu, lorsque nous sommes remplis par ton esprit, de cette diversité, tu peux faire des choses extraordinaires. Tu peux nous aider à avancer. Tu peux nous permettre de faire ensemble de grandes choses. Tu nous permets de nous soutenir mutuellement les uns les autres. Aide-nous, Seigneur, à conserver les liens de la paix et de l'unité, à nous souvenir d'où nous venons, à nous souvenir de la grâce que tu nous as accordée. Aide-nous, Seigneur, parce que nous vivons au sein de cette Église, à refléter ta personne et que tu puisses ainsi te glorifier au milieu de nous. Amen.